Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Ensemble qui donne la parole aux associations. Guy Wagner, à la technique Pierre Écart. Nous recevons aujourd'hui la Société généalogique d'Eure-et-Loire, sous le sigle SGEL, représentée par Soline Doré, présidente, et Denis Pinsard, responsable de la section de droit. Alors, ma première question, c'est... Qu'est-ce que la généalogie ?
Alors, la généalogie, c'est la recherche de nos ancêtres. Qui sommes-nous ? D'où viennent nos ancêtres ? Qui ne s'est jamais posé la question ? La généalogie a longtemps été réservée à une élite ou à des familles nobles. Le premier arbre généalogique est l'arbre de Jessé, qui, comme chacun sait, retrace la généalogie du Christ, et dont la première représentation date de 1086. À partir des années 70, la pratique s'est démocratisée et a connu un véritable engouement. Les années 70, c'est après 1968, le monde en mutation suscite une envie et un besoin de retrouver ses racines. On essaie de trouver les repères du passé. On se plonge dans les racines familiales, loin des turpitudes du présent ou du vertige de l'avenir. C'est assez souvent suite au décès d'un parent proche que l'on ressent le besoin de rechercher dans le passé. C'est le déclencheur. Faire grandir son arbre généalogique, retrouver la trace de ses ancêtres, ne s'improvise pas. C'est une quête longue, parfois difficile, une sorte d'enquête policière. On tire un fil. Parfois la plotte se déroule, parfois on tombe sur un nœud plus ou moins serré qu'il faut défaire. Mais c'est une quête passionnante qui mêle la petite histoire à la grande, qui nous fait entrer dans l'intimité de nos ancêtres. Faire de la généalogie, ce n'est pas simplement empiler les noms, chercher à remonter de génération en génération. C'est aussi essayer de donner du corps aux ancêtres que nous découvrons. Essayer de les faire revivre dans leur contexte. Pour cela, un généalogiste ne se contente pas d'éplucher les registres de l'état civil ou les registres paroissiaux. Les registres d'état civil, c'est après la Révolution, les registres paroissiaux, avant la Révolution. Mais il va aussi fouiller dans les actes notariés ou toutes les autres richesses dont regorgent les archives départementales. Le cadastre, qui permet de faire l'histoire d'une maison, la presse ancienne, où on retrouve des traces de nos ancêtres, les inventaires des archives, etc. Par contre, on ne fait plus de la généalogie comme il y a 50 ans. Dans les années 70, pas d'autre solution que de se déplacer dans les communes pour feuilleter les registres ou aux archives pour consulter les microfilms. C'est pourquoi les passionnés de l'époque se sont regroupés en associations, ont dépouillé méthodiquement les registres pour en extraire les données, des pionniers de l'informatique les ont saisis, et les tables de données sont nées. Un grand pas, un gros progrès, une aide fabuleuse pour les adhérents. L'apparition de l'informatique puis l'explosion d'Internet ont révolutionné les pratiques. Les archives départementales ont numérisé les registres d'état civil, les registres paroissiaux et les tables décennales. Les tables décennales, ce sont des genres de sommaires sur 10 années. Aujourd'hui, il est possible de partir à la pêche aux ancêtres de chez soi.
Alors, pourquoi faire partie d'une association ? Je dirais avant tout pour le côté humain. On y retrouve de l'aide quand on est parfois bloqué. Il y a toujours quelqu'un qui a une idée à vous suggérer ou vous aider à trouver une piste pour trouver la solution à ce blocage. On y découvre des cousins, des adhérents qui ont des ascendants communs. On y vit des moments conviviaux. Jusqu'à l'année dernière, la Galette des Rois attirait de nombreux adhérents proches de Chartres, mais par manque d'espace nous projetons une sortie culturelle. On bénéficie du travail de bénévoles, des photos d'enregistre qui ne sont pas en ligne sur le site des archives, des relevés comme les pupilles de la Nasson, les contrats de mariage. L'espace adhérent du site s'étoffe et s'enrichit d'année en année. On n'est pas seul devant son écran.
La Société généalogique d'Eure-et-Loire a vu le jour en 1976. C'est en gros à cette époque que sont nées la plupart des associations de généalogie, il y a donc à peu près 50 ans. La Société généalogique d'Eure-et-Loire compte environ 400 adhérents. La majorité est en Eure-et-Loire, mais environ le tiers des adhérents sont répartis dans toute la France, voire même à l'étranger pour trois d'entre eux. Un en Italie, un en Allemagne, un récemment aux Pays-Bas, et la France d'outre-mer à Kourou. Mais tous ont un point commun, ils font des recherches sur leur ancêtre qui est originaire d'Eure-et-Loire.
Alors, le siège de l'association SGEL est à Chartres, dans les locaux de la Maison des associations. L'adresse est 3 bis rue Jean Monnet, c'est face au stade Jean Gallet. Nous avons également un petit local au sein de la salle de lecture des archives départementales, ce qui nous permet de tenir une permanence hebdomadaire, tous les mercredis, de 10h à 17h. Nous avons également une antenne à Dreux et une autre à Nogent-le-Rotrou, où se tiennent des réunions mensuelles. À Dreux, elle se situe au centre Saint-Jean, 17 rue Saint-Jean. C'est la salle numéro 13, au fond de la cour. Nos réunions ont généralement lieu le dernier lundi de chaque mois. La prochaine réunion aura lieu le 27 mai de 17h à 20h. Vous êtes cordialement invités à venir nous y rejoindre. La Société généalogique d'Eure-et-Loire a aussi un site internet sur lequel les adhérents peuvent trouver les renseignements nécessaires à leur recherche. Nous profitons de l'antenne de Radio Grand Ciel pour remercier le conseil départemental, les archives départementales, ainsi que les mairies qui nous accueillent pour nos recherches.
Alors cette année, la SGEL présentera une exposition du 25 mai au 2 juin dans les locaux de l'Office de tourisme de Chartres. Cette exposition va s'appeler « Célébrité eurélienne » et « Si nous étions cousins ». Elle porte sur 8 personnages qui ont été choisis parce qu'ils avaient des liens de cousinage avec certains adhérents. Ils sont traités en 3 parties. Leur généalogie, leur vie, leur œuvre et nos cousinages. Il y aura aussi un volet philatélique car le cercle philatélique chartrain a accepté de participer.
Alors, les célébrités choisies sont toutes euréliennes. Je vais vous les citer. Raoul Brandon, c'est un architecte et homme politique né à Lucé. On lui doit la médiathèque de Chartres. Ensuite, Ambrosix Cronier, dit Brennus. Il est né à Châteaudun. On lui doit le bouclier de Brennus, bien connu des rugbymen. Hélène Boucher, qui a passé son enfance à Yermenonville. Le général Marceau, qui est né à Chartres, et dont on fête le 250e anniversaire de sa naissance. Ensuite, Henri Villain, un peintre orientaliste qui est né à Chartres, et deux célébrités drouaises, l'Oiseleur des Longchamps, c'est un médecin, docteur botaniste, et Maurice Violette, homme politique, maire de Dreux pendant 51 ans, ministre et gouverneur de l'Algérie. Les visiteurs pourront vérifier si parmi les ancêtres de ces personnages figurent aussi des personnes de leur famille. Peut-être se découvriront-ils de nouveaux cousins. Nous vous y attendons nombreux. Nous vous rappelons les dates du 25 mai au 2 juin dans les locaux de l'Office de tourisme de Chartres.
Alors le casting des personnages a été fait selon 2 critères. Que les personnalités soient euréliennes et qu'elles aient un lien de cousinage avec les adhérents.
Parce que vous avez des adhérents de ces familles-là.
Voilà.
Donc c'est eux qui font les recherches ou c'est
Ce sont eux qui font les recherches. Bon, alors, quelquefois, les cousinages remontent à une dizaine de générations. Hein. Bon, ce n'est pas des cousins germains, mais ils ont tous un lien avec ces personnages.
Et ces équipes de travail, vous les avez constituées à travers l'association. C'est eux qui sont venus ou c'est vous qui les avez contactés pour qu'ils puissent faire partie de groupes de...
Alors en fait, lorsque j'ai accepté le poste de présidente, peu de temps après, une adhérente est venue me voir en me disant « il y a quand même longtemps qu'on n'a pas fait d'exposition ». En moi-même, je me suis dit « j'ai pas signé pour ça », mais voilà. Et j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Et après, je me suis dit « après tout, ce serait peut-être bien effectivement de faire une exposition ». Il fallait trouver le sujet, il fallait trouver de quoi alimenter un petit peu les recherches. Donc je me suis dit que les personnages de Ray-Loire, c'était peut-être un peu bateau, mais c'était pas trop compliqué. J'ai demandé au cercle philatélique, dont je connaissais le président, s'il voulait bien me coacher un peu et nous aider. Et du coup, on est parti sur les personnages célèbres de Ray-Loire. Donc j'ai proposer un certain nombre de personnages. Et là, j'ai reçu plusieurs mails d'adhérents me disant « Ah, mais moi, je suis en famille avec un tel, je suis en famille avec un tel. » Et c'est là que le casting s'est imposé.
Également, tu as choisi les personnages aussi, une répartition géographique au voilà. niveau de tout l'Eure-et-Loire.
Voilà. On voulait effectivement qu'il n'y ait pas que Chartres. Mais que ce soit... donc on a Lucé, Châteaudun, Janville, puisque Maurice Violette est né à Janville, Hermenonville, puis Chartres, évidemment.
Également, tu avais dit, des personnes connues et moins connues.
Voilà.
Ça, c'était une bonne idée, je pense.
Ah, on en a oublié une, qui est Hélénis. Hélénis... personnalité, donc une femme du début du siècle dernier, d'un petit village de Beauce, puisqu'elle est de Levéville-Lachenard. Et elle a commencé sa carrière comme danseuse au Casino de Paris. Et elle a fini, je dirais, sa carrière en étant pilote de Bugatti, une des premières femmes pilotes automobiles. Et donc, parmi nos recherches, on a trouvé plein d'autres personnages qui auraient mérité de figurer dans l'exposition. Mais voilà, on est un peu limité aussi par la place. Et, donc, peut-être qu'il y aura un deuxième volet plus tard.
Je suppose qu'en 50 ans, vous avez quand même obtenu pas mal de, à la fois des études, mais aussi des personnages.
Oui.
Plus ou moins célèbres. Vous avez des familles entières, probablement, non ? Là, parmi toutes les études qui ont été faites depuis 50
oui,
ans.
Oui. Nous éditons un bulletin trimestriel dans lequel nous faisons paraître des généalogies de familles, bien sûr, les familles qui nous en donnent l'autorisation. Donc, nos projets, nous essayons d'étoffer l'offre de notre site Internet, puisque tout à l'heure, on disait qu'on ne faisait plus de la généalogie comme il y a 50 ans. Donc, les adhérents sont, je dirais, de plus en plus exigeants. Ils aimeraient trouver de chez eux un peu tous les renseignements. Nous aidons les adhérents qui ont fait des recherches importantes aussi à publier leur travail. Alors, des adhérents font des recherches dans leur coin sur un sujet qui les intéresse. Et donc, on essaie de publier... d'éditer des ouvrages. Un ouvrage a déjà vu le jour l'an passé. Il s'agit d'un procès en Beauce en 1693. C'est la transcription d'un procès qui a fait grand bruit dans un village de Beauce, en 1693 donc. Nous envisageons de faire une sortie culturelle et récréative au printemps prochain, en remplacement d'une journée de consultation qui ne fait plus recette. Justement parce que les données sont en ligne. Avant, il existait une journée au mois de mars où les adhérents venaient et consultaient les fameuses tables de données, puisque les données n'étaient pas en ligne. Depuis que les données sont en ligne, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de monde. Le mois de mars dernier, on était plus de membres du CA que d'adhérents qui venaient. Voilà. Donc ça ne fait plus recette. On va supprimer cette journée qui demande beaucoup de manutention. Par contre, moi j'aimerais qu'on garde le côté convivial. Et pour cela, eh bien, on va essayer de faire une journée un peu culturelle, une sortie culturelle, récréative, qui permette aux adhérents de se rencontrer. Et voilà, ça va être un essai au printemps prochain. Et puis, alors là, nous envisageons aussi une publication sur la guerre de 70, puisque la guerre de 70, l'année prochaine, ça sera l'anniversaire. Donc, je dévoile pas plus le sujet, mais on lance un appel pour recueillir des documents, des photos, des témoignages qui nous permettraient d'étoffer le sujet, cet ouvrage se voulant un témoignage vivant, plus que purement historique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce soit une succession de dates ou de faits historiques, mais qui est aussi des faits... des témoignages de ce qui s'est passé. Toujours la petite histoire au service de la grande histoire.
Alors comment faites-vous pour faire les études? Parce que je suppose que vous allez dans les bibliothèques, vous allez dans les musées, je suppose que vous êtes en relation avec d'autres associations pour ouvrir les portes, je dirais.
Alors, oui, il y a aussi un site qui regorge d'infos. C'est le site de la Bibliothèque nationale de France, la Gallica. Par exemple, pour l'exposition, je suis allée fouiller dans la presse ancienne, qui est numérisée. Donc, bah, c'est un moteur de recherche énorme. Vous tapez un nom et hop, vous avez des articles de journaux qui sortent. Et bon, c'est fabuleux, quoi. Bon, il y a aussi les archives départementales qui ont numérisé la presse ancienne. Donc, par exemple, pour les panneaux de Marceau, on a mis des morceaux d'articles de l'inauguration de la statue de Marceau. Il y en a toute une page, bon, que tout le monde peut aller consulter, d'ailleurs, sur le site d'archives.
Début janvier, il y a quelqu'un de l'Ardèche qui m'a contacté pour retrouver le décès d'un de ses lointains grands-oncles. J'ai retrouvé facilement son décès par le service de l'état civil de la mairie. Par curiosité, j'ai demandé s'ils avaient les références de la tombe. Et effectivement, ils m'ont donné la cote précise. Je l'ai retrouvé au cimetière de Dreux. Et par contre, les noms ne correspondaient pas tout à fait. J'ai poussé un peu plus loin. Le service du cimetière m'a donné le nom de toutes les personnes inhumées. Et par curiosité, j'en ai trouvé un. Il y en a deux personnes décédées à Paris. Et par la presse, j'ai réussi à... Cette personne est décédée assez jeune, dans les 30 ans. Et par Internet, par Gallica, j'ai retrouvé que cette personne-là avait été assassinée à Paris par un de ses locataires. Et j'ai retrouvé le début du pressé de l'assassin. Voilà, on trouve tout. Il y a même un cousin qui me disait encore, si tu ne sais pas, Internet, Google le sait.
Oui, vous vous servez beaucoup d'Internet. Donc on y trouve à la fois les états civils, on y trouve les journaux, les procès, et puis alors pour les militaires, vous retrouvez aussi des informations sur des sites particuliers où c'est toujours les archives départementaux qui vous donnent les informations.
Oui, il y a des sites plus dédiés aux militaires. Il y a beaucoup de bases de données qui circulent comme ça sur Internet. Par contre, bon, Internet ne fait pas tout. Par exemple, tout ce qui est contrat de mariage, tout ce qui est acte notarié, il faut souvent se déplacer aux archives.
Il y a eu un gros effort de fait. Le site s'appelle Mémoire des hommes et on peut retrouver le livret militaire d'un ancêtre qui a participé à la guerre de 14. Ça, c'est une source formidable. Vous avez tout le pédigré, ses campagnes, sa date d'incorporation, sa description, et à la fin, toutes les campagnes, bien sûr, et à la fin de son service militaire, l'endroit où il se retire.
Alors, aux archives départementales, il y a aussi les fiches matricules, effectivement, que l'on peut consulter. Les fiches matricules, bon, bah, c'est classé par classe, comme disaient les ancêtres. Donc, on cherche son lieu d'incorporation. Et là, effectivement, sur la fiche, on a tous les endroits où il est passé. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a sa description physique et son niveau d'instruction, etc. Donc, ça donne des renseignements précis sur oui, la couleur des yeux. Voilà.
Un petit rappel. Quand on fait sa généalogie, moi, j'insisterai, il ne sert à rien de vouloir galoper, d'arriver à je ne sais quel ancêtre très lointain. Avant de passer une génération à une autre, il faut s'assurer des dates, naissance, mariage, décès de personnages que vous utilisez. Sur certains sites, on retrouve beaucoup d'informations, mais beaucoup d'erreurs. Donc, je rappelle toujours, vérifiez vos sources. Il faut également signaler que les archives d'Eure-et-Loire sont formidables et on y trouve une masse impressionnante de documents. Allez consulter les contrats de mariage, les actes notariés, c'est formidable. Vous allez y trouver, bien sûr, des contrats de mariage, des inventaires après décès, des successions, des procès.
Alors, c'est ce que j'appelais tout à l'heure donner du corps aux ancêtres. Je prendrai la comparaison. Bon, bah, quand on fait son arbre généalogique, tout le monde sait ce que c'est qu'un arbre. Tout le monde visualise un arbre en hiver. Il y a les branches, il y a tout, mais il est nu, il est pas très agréable. Et plus on cherche de renseignements sur les ancêtres, dans les actes notariés, dans tout ce que vient de dire Denis, eh bien, on met un petit peu, on habille l'arbre, et là, après, il devient un arbre vert, vivant. C'est plus agréable.
Alors, votre site, on regroupe toutes vos archives et toutes vos recherches?
Alors, dans le site, on a deux parties dans le site, une partie tout public et une partie adhérent. Dans la partie tout public, il y a un certain nombre de renseignements. Il y a aussi des cartes postales, des anecdotes sur les communes d'Eure-et-Loire, donc qui ont été relevées par des adhérents, qui ont été classées par communes, etc. Tout ça, c'est tout public. Dans la partie adhérent, il y a tous les renseignements que les adhérents ont relevés, donc tous les actes naissance, mariage, décès. On a des photos d'actes notariés, des photos d'actes de mariage, la table des pupilles de la nation, la base des pupilles de la nation. On essaie d'étoffer d'année en année de façon à offrir...
Et chaque adhérent a un code. Petit espace, voilà, un petit espace, voilà. Pour travailler.
Je pourrais réinsister, la généalogie, c'est une affaire personnelle. Ça ne se commande pas directement sur Internet. Ça n'a aucune valeur, aucun intérêt. Je dirais, ceux qui commencent la généalogie, attention, vous mettez le doigt dans un engrenage, vous en prenez pour des années.
Voilà. C'est une passion.
C'est une passion et ce n'est jamais
dévorante.
Voilà. Ce n'est jamais fini, mais c'est passionnant. Bon, on aime ou on n'aime pas.
Ben, quand on trouve, on aime. C'est quand on cherche très longtemps et qu'on ne trouve pas. Au bout d'un moment, ça doit. C'est agaçant. Il faut trouver quand même.
Personnellement, puis à d'autres personnes également, est arrivé de chercher un acte particulier, soit un mariage ou un décès d'un personnage de votre généalogie. vous le cherchez pendant 10, 20 ou 30 ans. Ça m'est arrivé. Et par l'aide d'autres associations, j'ai fini par retrouver. Personne ne trouvait un décès d'une personne de Beauce. Hein. Et par l'aide du Loiret généalogique, j'ai trouvé ce décès.
Oui, vous entraidez entre départements. Parce que l'association est départementale.
Elle est départementale.
Dans chaque département, il y a une association également qui correspond à votre activité.
Et c'est vrai qu'on dit que les ancêtres, on pense que les ancêtres ne bougeaient pas, mais en fait, ils bougeaient déjà beaucoup.
Oui, surtout d'un département limitrophe à un département... Tous les départements autour de l'Eure-et-Loir, forcément, ça devait bouger.
Une petite restriction pour les personnes, les ancêtres laboureurs, ils étaient tenus par la terre, ils bougeaient un peu moins, je pense.
Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi des faits historiques qui font que les ancêtres bougent. Ouais. Moi, j'ai une branche qui vient d'Alsace. Je me suis demandé pourquoi ils étaient arrivés à Chartres. Et en fait, c'est après la guerre de 70. Voilà. Et ils sont passés par Dreux. Parce que je cherchais quel pouvait être le chemin entre Saverne et Chartres. Et il y a eu une étape à Dreux. Voilà.
Bien, écoutez, on arrive un peu à la fin de notre émission. Alors, je rappelle, il faut peut-être rappeler un peu vos coordonnées à Chartres, à Dreux et peut-être dans d'autres villes d'Eure-et-Loir.
Alors, on est à Chartres. Notre siège est 3 bis rue Jean Monnet. Mais tous les mercredis, vous pouvez nous rencontrer aux archives départementales de 10h à 17h. Et nous avons une antenne à Dreux et une antenne à Nogent-le-Rotrou.
Et à Nogent-le-Rotrou, l'adresse, c'est...
Une bonne question.
Il faut aller sur votre site.
Voilà.
Voilà, voilà. Pour tous les renseignements, on va sur votre site. Et puis, on rappelle votre site,
www.sgel28.com.
Bien. Bon, moi, de mon côté, je rappelle à tous les adhérents qui écoutent l'émission Radio Grand Ciel, l'émission Ensemble, qui vous pouvez aller sur www.radiograndciel, rubrique émission, puis Ensemble. Alors, pour terminer, nous allons écouter...
Alors, c'est « Mon vieux » de Daniel Guichard. La première source du généalogiste, c'est de faire appel à la mémoire vivante. C'est d'interroger la génération précédente. Mais souvent, on ne sait pas en profiter lorsqu'ils sont là. C'est un petit peu le texte de cette chanson. Et après, on le regrette. Comme l'auteur, à la fin de cette chanson, « J'aimerais bien qu'il soit près de moi, papa ».
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer, tu vois. C'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé.